Votre silence me dit que nous pouvons commencer. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes venus poursuivre donc ce parcours, cet itinéraire de théologie fondamentale. Nous aurons un certain nombre de séances ensemble jusque vers la fin du mois de janvier. Alors, je vous ai distribué, là, on vous a distribué un petit polycopier. Parce que dans un cours de théologie, notamment pour les débutants, théologie fondamentale, il y a évidemment un certain nombre d'informations que vous allez trouver dans ce petit manuel. Et je le fais aussi, et en particulier pour nos amis étrangers, pour qui c'est sans doute beaucoup plus difficile que pour les francophones, de prendre des notes. Et donc c'est tout un art, je dirais, quand on commence en théologie, à la fois d'écouter, de suivre un peu ce qui est proposé par l'enseignant, les informations, mais surtout les argumentations, une réflexion, et en même temps de noter l'essentiel. Donc pour vous faciliter cette tâche, vous avez l'essentiel dans ce polycopier, et c'est peut-être pas impossible de mettre des feuilles dedans, ou si vous avez un ordinateur, donc de rajouter évidemment au manuscrit que vous avez devant vous ce que j'improvise ou ce que j'ajoute évidemment comme un certain nombre de réflexions. Alors vous avez donc au début une sorte de résumé du cours, ensuite vous avez un plan que j'expliquerai aujourd'hui, c'est un peu l'objectif premier de notre séance d'aujourd'hui. Et ensuite, vous voyez, ça se termine à la page 49. Vous avez ensuite trois bibliographies, donc pour les différentes parties du cours que j'expliquerai. Et ensuite, un certain nombre de schémas. À la page 57, il y a un plan de nouveau et des dossiers de texte. Vous avez l'essentiel des dossiers. Cela étant dit, je vous invite quand même de prendre chaque fois la Bible avec vous. On aura besoin, évidemment. Et si vous pouvez vous acheter, je crois que chaque étudiant en théologie doit l'avoir, les textes du Concile Vatican II, qu'on va évidemment utiliser. Vous avez une édition commode qui n'est pas très chère chez Bayard, l'intégrale, où vous avez à la fois la version française et la version latine. Voilà. Donc ça, c'est un peu les documents, je dirais, de base. Évidemment, l'Écriture sainte et le dernier concile. Et le reste, vous voyez là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. On va les trouver, puiser ici. Et je pense que les étudiants en premier cycle, les premières années ici, qui sont-ils? Qui est en première année? Ah voilà, bon, ça permet de s'identifier. Très bien. Donc je crois que vous avez évidemment des groupes, un groupe de travail où vous allez lire des textes aussi, revenir un peu au cours. Ça permet de l'intégrer. Et si les autres veulent former des groupes, évidemment c'est toujours possible. Alors, aujourd'hui, donc, et dans toute cette partie d'introduction du cours, il s'agit évidemment d'introduire à une introduction, si je puis dire. Et dans le premier chapitre, vous aurez un peu en miniature l'essentiel de ce qu'est la théologie fondamentale. On aura déjà un peu une première définition. Donc vous pouvez suivre à partir de la page 7, donc une première approche du sujet. Je proposerai donc, comme je l'ai dit ici, c'est une vieille procédure qu'on trouve déjà chez Saint-Irénée, en miniature, en raccourci, donner un peu l'ensemble. Et l'essentiel, je le dis tout de suite, qui va nous occuper, je dirais, aujourd'hui, et qui est au fond déjà l'essentiel de la théologie fondamentale, même si on n'a pas encore expliqué ce terme, il y a un lieu, un site, et c'est la rencontre de ceux et de celles, voilà, qui n'ont pas la même foi que nous, qui se situent autrement, Parfois, on a appelé la théologie fondamentale le ministère des affaires étrangères de l'Église. C'est exactement ça. Le ministère des affaires étrangères. Voilà. Donc, le lieu de la théologie fondamentale, c'est la rencontre de l'autre. Sous toutes ses formes, nous allons le voir, et je dirais même l'absence de rencontre, la rencontre de notre part, de celui que nous appelons parfois l'indifférent, il faudra préciser ce terme, fait encore partie, si vous voulez, je dirais, de l'intérêt même de la théologie fondamentale. Et on peut dire que la théologie fondamentale a, de ce point de vue-là, évidemment, une implication pastorale forte. Le versant pratique de la théologie fondamentale, c'est précisément la théologie pratique, la pastorale. Et voyez à la fin de mon plan, la conclusion, donc à la page 5, théologie fondamentale et pratique pastorale, c'est à la visée, on va évidemment y venir. Alors, dans le premier chapitre, je vais prendre tout de suite ce qu'on appelle maintenant souvent la charte biblique de la théologie fondamentale, et c'est ce célèbre verset 15 du chapitre 3 de la première lettre de Pierre, « Rendre compte de notre espérance devant quiconque nous en demande raison ». Et donc, je vais un peu expliquer, avant d'entrer, je dirais, un peu en détail, je dirais, dans les gestes, ce que j'appelle les gestes de la théologie fondamentale, je vais un peu commenter ce texte. Je le prends un peu comme ça, vous voyez, on n'a pas encore réfléchi pourquoi se référer à l'Écriture. Parce que là, bon, j'ai déjà un premier présupposé que je n'ai pas explicité, ça... Pour les chrétiens, ça paraît normal de commencer par un texte d'écriture, mais évidemment, dans la rencontre d'autrui, ce n'est pas nécessairement normal de partir d'un texte d'écriture. On va y revenir, évidemment, après. Donc, pour le moment, je parle de cela. C'est le point de départ le plus simple. Alors, il y a d'abord, si vous voulez, je dirais, un premier mot qui pose beaucoup de problèmes. Le mot « apologia » en grec. Soyez toujours prêts, j'ai traduit ici littéralement, à faire l'apologie. Apologian, c'est l'accusatif. L'apologie, bon, évidemment, c'est un mot presque insupportable pour nos oreilles occidentaux, disons, n'est-ce pas? Parce que on a toujours l'impression derrière ce terme, l'apologie, il y a un peu une auto-justification, voilà. On se justifie d'une certaine manière, auto-justification. Surtout dans un contexte comme le nôtre qui est porté plutôt au dialogue, à la communication, on va évidemment revenir à ces termes. Et pourtant, ce mot apologia, il est très répandu finalement dans le Nouveau Testament, et nous allons le voir rapidement, c'est aussi un mot évidemment qui nous vient de la tradition prophétique. Il y a un contexte ici derrière, on le traduit souvent par défense, apologie, défense, et on est évidemment dans un contexte de procès, dans un contexte juridique. Alors, ce terme dans le Nouveau Testament, je vous ai donné quelques références, mais je vais lire au moins deux chez Luc, qui est très sensible à ça, qui nous retrace d'ailleurs non seulement le procès de Jésus, mais dans les Actes des Apôtres, deuxième volet de son ouvrage, deuxième livre, il y a d'autres procès. Il y a notamment les procès faits, je dirais, aux 12, Jacques et Paul, notamment, procès de Paul. À la fois le procès devant les autorités juives et aussi devant les autorités romaines. Donc, on est dans un contexte de procès, et si on prend Luc 12, verset 11, « Lorsqu'on vous amènera devant les synagogues, les chefs et les autorités, ne vous inquiétez pas de savoir comment vous défendez et que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il vous dire. » Donc, c'est le Saint-Esprit qui fera, je dirais, avec vous, en vous et par vous, l'apologie, la défense, et vous inspirera un discours. Et on retrouvera ensuite la même chose en 21-4. Vous voyez, on est déjà, je dirais, dans le contexte extrêmement conflictuel avant le procès. Voilà. Car tous ceux-là ont pris... Attendez, c'est pas 21-4, 21-14, pardon. Mettez-vous en tête que vous n'avez pas à préparer votre défense. Alors la théologie fondamentale, elle prépare quand même la défense. Voilà. Ou elle réfléchit finalement sur cette apologia qui nous est donnée dans une situation donnée. Alors, vous voyez, donc ça c'est un peu le contexte du Nouveau Testament. Vous avez peut-être déjà entendu que Justin, donc le philosophe, est martyr, le converti romain, martyr, témoin, voilà. Donc, apologie rime avec martyr, témoin, dans un procès. Donc Justin, on a fait deux apologies. 156, 157, les deux apologies, et le dialogue avec les juifs, avec un juif Tryphon. Donc c'est un genre littéraire à partir du deuxième siècle. Ça devient un genre littéraire. Mais un genre littéraire qui a évidemment une longue tradition déjà. Donc je vais vous donner un peu trois aspects que vous trouvez dans mon dossier. Il y a, si vous voulez, je dirais, deux situations de communication différentes. Il y a les situations de communication, alors, processuelles, si je puis dire, dans un procès, je viens de le dire, mais on a aussi des apologies, je dirais, dans des contextes beaucoup plus paisibles. Notamment à partir du XIe, XIIe siècle, dans les dialogues interreligieux, fictifs souvent, jusqu'à ce célèbre dialogue sur la paix de Nicolas de Cuse au XVe siècle, où vous avez une sorte de fiction, un dialogue, une apologie, où intervient un musulman, un juif, un rabbin et un chrétien, et ils discutent ensemble sur la paix, et chacun fait au fond sa propre proposition religieuse. Voilà, si vous voulez, les deux situations. Alors, si on prend, je dirais, la première, évidemment, la situation en procès, j'ai déjà cité Luc. Alors, quelques remarques. Il y a évidemment d'abord l'apologie, la célèbre apologie de Socrate, qui est au fond la première, n'est-ce pas? Donc, en contexte grec, hellénistique, rédigé par Platon, Socrate devant se défendre et défendre ses convictions devant l'Aréopage d'Athènes contre l'accusation d'athéisme. Ah, ça c'est intéressant. Il croit pas dans les dieux de l'époque. Voilà, accusation d'athéisme et l'accusation de dégarer la jeunesse. Donc ça c'est au fond la naissance du genre littéraire. Et au fond toute la suite jusqu'à nos jours, quand il y a ce genre littéraire apologie, on se réfère donc à cette première idée. Et c'est là, ça c'est le versant grec, si vous voulez, hellénistique. Si nous regardons le versant biblique, alors la notion de procès et de défense, c'est une catégorie, ce sont des catégories prophétiques. Dans le prophétisme, on le trouve, c'est-à-dire Dieu et son peuple, dans le cadre de l'Alliance, sont en procès. Dieu est en procès contre son peuple, il est lié à son peuple par l'Alliance, et son peuple transgresse l'Alliance. Donc, Tout naturellement, vous voyez, c'est des catégories juridiques, on oublie ça souvent. L'alliance est une catégorie juridique. Dieu se met en procès contre son peuple. Voilà. Et c'est au fond, si vous voulez, cette tradition-là qui va ensuite renaître dans le Nouveau Testament, revenir, le procès de Jésus, je l'ai déjà voilà. Le procès fait à ses disciples, Étienne, Paul, et ensuite les Justins et autres. Et dans cette situation donc processuelle, il faut bien repérer encore quelques petites précisions que la catégorie du procès intervient ici, de la défense, c'est une catégorie à la fois juridique et théologique. Qu'on risque d'oublier. Et on est ici dans un cas limite, dans tous les cas que je viens de nommer, dans un cas limite, à partir de Socrate. C'est-à-dire, on n'est pas dans le pénal, comme on dit. C'est pas un procès pénal, mais c'est des procès politiques, politico-religieux. Vous voyez, le procès de Jésus, évidemment, on le présente comme un procès, je dirais, pénal, où Jésus doit se défendre. Alors, qu'est-ce qui caractérise ici, si vous voulez, je dirais, le fait qu'il s'agit d'un procès politique? C'est la position du témoin. Parce que normalement, dans un procès, retenons bien cela, le témoin, il bénéficie du privilège d'immunité. Il est protégé. Alors, dans le procès politique, ici, Jésus est à la fois témoin et accusé. Est-ce qu'il est le cas plus tard de Justin? Est-ce qu'il est le cas de Socrate? Et est-ce qui est le cas de beaucoup de procès, je dirais, de type politique. Et vous voyez, apparaît ici, au fond déjà, je dirais, une sorte de limite fondamentale que Jean, il pousse ce que je viens de dire, on va y revenir en détail. Il pousse ça jusqu'au bout. Vous rappelez la célèbre scène Jésus devant Pilate, vous voyez, en 1837. Je vais vous citer quand même ce magnifique passage. Pilate lui dit alors à Jésus, « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Voilà l'enjeu. Pour rendre témoignage à la vérité. Donc on est dans une situation de procès. Jésus est obligé de se défendre, ça c'est Luc qui beaucoup souligne ça, de faire l'apologie, et il est dans cette défense à la fois l'accusé et celui qui est le témoin. Et qui est témoin, vous voyez, alors ça c'est le cœur de la théologie fondamentale, témoin de la vérité. Donc, vous voyez, vous avez ici, évidemment, une situation de violence extrême. Et je voudrais dire ça tout de suite pour ne pas trop rapidement lénifier, si vous voulez, et pacifier le travail de la théologie fondamentale. Il faut entendre derrière le témoin, non pas ce que nous en avons fait, souvent dans nos célébrations, on a quelques témoins, etc., qui paisiblement racontent leur propre vie. Et bon, mais c'est beau et c'est bien, on va y revenir. Mais il ne faut pas oublier que l'origine du témoin, du terme témoin, nous renvoie à une situation d'extrême violence. C'est Jésus le témoin, c'est ses disciples, c'est les martyrs. Alors ensuite, on va élargir. Donc ça, ce n'est qu'une seule situation des deux, mais il ne faut pas l'oublier celle-là, évidemment. Une situation d'une certaine violence. La vérité, vous voyez, c'est ça qu'il faut entendre ici. Ce qui se révèle ici, dans la situation du procès, que la vérité a du mal à advenir, à se frayer un chemin dans la violence. Et d'une certaine manière, le témoin est celui qui paye de sa vie, pour la vérité. dans une situation alors extrême ici. Je leur ai dit, c'est pas le tout. C'est une situation extrême. Alors, quand vous regardez maintenant, je dirais, pour prendre l'autre situation, en face de cette situation de la violence, vous avez donc dans le deuxième tiret le contexte plus paisible du dialogue devant et avec quiconque. Devant et avec quiconque. Alors ça, c'est d'une certaine manière l'inverse. C'est-à-dire la situation violente du procès, situation extrême, et ça, c'est l'origine, au fond, de la terminologie de l'apologie. Et après, dans la première lettre de Pierre, pour y revenir, le terme apologia reste, mais là, on est déjà dans un contexte plus universel, pourrait-on dire, plus libre, plus ouvert, on pourrait dire plus communicationnel, voilà. Et il s'agit donc, soyez toujours prêts à faire l'apologie devant quiconque, quiconque. Donc, retenez bien cette figure de quiconque. Non pas uniquement l'adversaire, l'ennemi, mais quiconque. Qui vous en demande raison. Ah, ça c'est intéressant. Dernier temps à expliciter, le logos. Demandez raison de votre espérance qui est en vous. La raison intervient. Vous voyez, là, on est aussi dans une situation de communication. Quand il y a situation d'inimitié, donc le contraire de l'hospitalité, d'inimitié, il n'y a plus rien en commun, d'une certaine manière. On extermine Jésus. Mais ici, il y a quelque chose de commun. C'est le logos, la raison. La raison. Et du coup, comment on peut comprendre, d'une certaine manière, comment la théologie fondamentale espère toujours, c'est un acte d'espérance, que la violence n'aura pas le dernier mot et qu'on pourra revenir à la raison. Et donc du procès politique qui est déjà pipé vers un réel procès où les chrétiens peuvent, devant un forum, retenez ce terme, un forum, voyez, le forum c'est ce qui est public, voilà, le forum à Athènes, etc., voilà, un espace public, devant l'espace public, dans l'espace public, rendre raison de leur conviction intime, de leur foi. De le faire raisonnablement, de se faire entendre. Et voyez, ça c'est déjà l'espérance de Justin, mais il a subi le martyr. Mais Justin, par exemple, devant l'empereur, tente de défendre la présence des chrétiens dans la société romaine et de dire, nous ne sommes pas les ennemis de l'État, c'est très important, nous ne sommes pas les ennemis de la société, voilà, voilà ce que nous sommes. Voilà ce que sont nos convictions. Nous sommes plutôt au service de la société. Voilà. Mais il faut le faire raisonnablement. Alors on va voir évidemment tout au long de ce parcours le problème de la raison. Ben, la raison est historique, elle a bougé beaucoup à travers l'histoire. Donc il faudra y réfléchir. Donc vous avez ici déjà, si vous voulez, j'ai les deux gestes de la théologie fondamentale, donc le point de départ, je l'aurais dit, c'est une situation évidemment, je dirais, compliquée quand il y a la violence, et on le voit aujourd'hui avec la violence religieuse, pensez aux chrétiens en Irak, etc., ce que ça peut signifier. Voilà, en même temps, on peut toujours espérer que raison se fasse, que raison se fasse. Voilà. Parce que ça, c'est la capacité de l'humanité de repartir, de communiquer. Alors, si vous regardez maintenant, on va aller encore un tout petit peu plus loin, vous regardez la première phrase un peu de mon argument, voyez à la page 3 de votre dossier, l'objectif de la théologie fondamentale classique, est d'aider les croyants à rendre compte de leur foi, donc voyez, vous avez cette formule de la première lettre Pierre, et de montrer à ceux et celles qui sont attirés par une existence croyante comment y accéder en vérité. Voilà. Comment y accéder en vérité en rendant compte, c'est ce que veut dire faire Pierre, de notre propre foi. Voilà. Voilà. Première définition extrêmement simple de la théologie fondamentale. Parfois, je le redis, ce n'est pas possible parce qu'on est dans une situation difficile. Mais il faut toujours espérer que ce soit possible. Alors, une dernière petite remarque. Avant d'entrer, je dirais davantage, si vous voulez, dans l'explicitation que j'ai dit là de manière un peu rapide et d'une manière simple. Voyez, vous avez là trois numéros, je reviens, n'est-ce pas, au troisième tiret, tout à fait au début du premier chapitre. Comment ça marche, pour expliciter un peu? Vous avez donc des situations de communication, je viens d'expliquer ça. C'est donc la première chose que la théologie fondamentale doit faire et que nous allons toujours faire à plusieurs reprises. Nous sommes avec qui en communication comment? Ça, c'est le point de départ. Ce qui est aussi le point de départ de la pastorale, n'est-ce pas? À qui vais-je m'adresser? Avec qui je vis? Etc. Situation. Et ensuite, évidemment, deuxième élément, rendre compte de son espérance, en faire l'apologie, ça passe par des questions. Ça passe par des questions. Et ce sont souvent, je dirais, les questions d'autrui. Et c'est souvent les questions d'autrui qui me révèlent mes propres questions. Alors, je vais vous donner quelques questions. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les traiter, mais simplement vous puissiez peut-être déjà un peu vous identifier avec ces questions, de voir si vous les avez entendues de cette manière-là ou autrement, ou si ce sont aussi vos questions. Voilà. Quelques types. Alors, je ne les mis pas là, peu importe que vous les notiez ou non. Hein. Voilà. Alors, je dirais, il y a d'abord une première catégorie de questions qui peut toucher directement à l'existence de Dieu. Alors, on va toujours tout de suite dans le centre. L'existence de Dieu. Existence éprouvée comme peu ou pas du tout crédible. Si on met un peu sur la balance, alors ça c'est une autre métaphore que je n'ai pas encore introduite, mais à laquelle on reviendra beaucoup, beaucoup dans le cours. Vous voyez, la justice, on la représente souvent par la balance. Et vous avez une raison, un logos scientifique qui est souvent binaire, même si c'est beaucoup plus compliqué. On va y revenir. Mais il y a beaucoup de choses de l'existence humaine où la raison intervient et où il s'agit de peser. Peser. Alors là encore, je dirais, vous avez, je dirais, le modèle du procès. Les assises, par exemple en France, les assises, c'est-à-dire vous avez des jurés, c'est-à-dire c'est un tribunal populaire, évidemment il y a des juristes ou des juges, ça a été réformé récemment, mais le principe reste le même. Il y a les jurés et qui doivent ensuite décider en fonction de leur conviction intime, parce que quand vous n'avez pas de preuves formel que quelqu'un est le meurtre, pour prendre l'exemple radical. Comment décider? Vous avez des indices, des signes, vous voyez, vous avez le plaidoyer pour, le plaidoyer contre, et à un moment donné, il faut peser. Voyez la balance. Qu'est-ce qui a du poids? Qu'est-ce qui a du poids? Donc, existence de Dieu est prouvée comme peu ou pas du tout crédible, si on met sur la balance, alors quoi? Le poids du mal, l'Holocauste, voyez, le crime contre l'humanité, telle ou telle situation personnelle, tragique, voyez, problème de crédibilité, rendre compte de son espérance, des questions qui émergent rapidement. D'autres sont interrogés, alors on reste avec l'existence de Dieu, par la pluralité des religions. C'est vrai que autrefois, ce n'était possible qu'à un tout petit groupe, une petite minorité, une élite de voyagers. Donc, grosso modo, on évoluait à l'intérieur de sa religion, qu'on héritait. Mais aujourd'hui, les masses médias, la télé, le cinéma, les voyages, on a fait le tour du globe, pluralité de religions. Comment croire, voilà, qu'il y a une position parmi toutes qui a le poids du vrai? Vous voyez, on vit un peu spontanément, je dirais ça, dans sa propre foi, oui, bien sûr, la seule vraie. La seule vraie. Et si moi j'étais né en Inde, probablement serais-je hindou, n'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas, je dirais, finalement, un acte de violence inouïe de dire qu'il y a une position ultime et qui est vraie? Alors pourquoi ne pas dire, voilà, au fond, les religions plurielles sont l'expression d'une fécondité religieuse, d'une créativité religieuse incroyable, finalement, d'une inventivité de l'humanité qui affronte le tragique, voilà, dans le grand fleuve de la vie. Voilà, un seul Dieu incarné. Alors, le christianisme pense que le Dieu qui parle dans l'histoire de l'humanité, ce qui est déjà un présupposé énorme, il y a un Dieu qui n'est pas lointain, mais un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle. Au commencement était le Verbe, le début de la Genèse. Un Dieu qui parle, qui n'est pas silencieux, qui parle dans l'histoire et qui l'a pris chair en Jésus-Christ, qui est entré dans notre histoire. S'est fait homme dans un tout petit pays à l'est de la Méditerranée, occupé par les Romains. Voilà. Un homme confessé comme fils de Dieu, Dieu fait homme. N'est-ce pas un anthropomorphisme enfantin? Voilà, de dire cela de cette manière, un mythe qui appartiendrait à l'enfance de l'humanité. N'est-il pas plus plausible dans la situation actuelle et face aux connaissances que nous avons de l'univers et des dimensions de l'univers et de l'histoire de l'humanité de croire à un Dieu impersonnel, sorte de principe divin? Voyez là, on touche quand même, j'ai dit, aux questions de nos contemporains. Comment rendre compte de notre espérance? À quiconque, je dirais l'homme raisonnable, qui nous doit un certain respect et qui nous demande, mais comment tu peux croire, voilà. Et si nous allons regarder maintenant l'histoire du christianisme, l'histoire deux fois millénaire de l'Église, donc Dieu, le Christ, l'Église, prenant ces trois terrains, n'est-ce pas, n'est-elle pas rythmée par des divisions, des incohérences, sans parler des crimes commis au nom du christianisme, qui rend peu crédible la prétention de l'Église d'être la représentante de celui auquel elle se réfère. Vous voyez, on pourrait beaucoup allonger la liste. Donc, je dirais, pour le moment, peu importe, si vous voulez, je dirais, le détail des questions, mais laissez advenir les questions. Voilà, c'est à ça que je voudrais vous inviter par le cours de théologie fondamentale. Des situations de communication, les deux types que je viens d'indiquer. Deuxièmement, des questions qui adviennent quand on ne reste pas uniquement sur une île chrétienne, une île chrétienne. Voilà. Ce qui nous menace tous. Mais quand on est réellement en communication avec les autres. Laissez advenir les questions. Et voyez, ça conduit vers quelque chose de tout à fait, je dirais, décisif, une expérience que je vous ai résumée ici, c'est la troisième étape, un chemin de liberté. Certes, peut-être la disparition de nos évidences. Oui, je l'espère. De nos évidences primes. Pour accéder, grâce aux interrogations, à une foi et une espérance librement accueillies. Voyez, là, c'est le but de la théologie fondamentale. Voilà. C'est grâce à autrui et ces questions que j'identifie comme les miennes, que je laisse advenir en essayant d'y répondre, le logos qui nous est donné par Dieu lui-même, la sagesse, voilà, répondre nous-mêmes, pour accéder à une foi, on a parlé de deuxième naïveté, et une espérance librement accueillie. Librement accueillie. Voilà, si vous voulez, je dirais, le but de la théologie fondamentale. Alors, on va préciser cela maintenant. C'est la suite, si vous voulez, je dirais maintenant, de l'opération. Je vais introduire maintenant, vous avez ça de manière encadrée. Je vais rester maintenant dans ce jeu de relations. Le jeu de relations. Avec autrui, avec quiconque. Et je vais regarder d'abord, ça sera mon premier point, cette relation avec l'autre qui m'interroge, et dans un premier sens, vous voyez, quand on a une relation symétrique, dans la relation, on va d'abord vers l'autre, premier élément, et ensuite, il y a un retour. Je suis moi-même le bénéficiaire, à un moment donné, de la rencontre avec autrui, ce que je viens déjà de vous montrer un tout petit peu. Donc je voudrais un peu redessiner ce chemin et d'introduire progressivement quelques mots techniques. Vous voyez, la théologie fondamentale, on va voir dans le quatrième chapitre, c'est un peu une science, comme on dit parfois, une science théologique. Donc il y a des terminologies techniques, évidemment. Mais rassurez-vous, je vais toujours les introduire à partir de choses très simples et de vous expliquer pourquoi on utilise des mots techniques, comme je viens de le faire avec le mot apologia, apologie, et l'autre mot qui lui est intimement lié, celui de témoin. Voilà, apologia et témoin. Donc ça sera le premier point. Donc vous voyez, un double geste, vous comprenez, prenez ça de manière très concrète, geste. Un double geste, rendre raison devant la foi, devant autrui. Alors là, ça va dans le sens vers autrui. Et se mettre à la recherche de l'identité de sa propre foi. Vous voyez, dans une bonne relation, il y a à la fois le chemin vers autrui. Et si je vais vraiment chez autrui et chez l'écoute, si je l'écoute réellement, ça m'interroge moi-même. Et ensuite, il y a une deuxième distinction tout à fait décisive, c'est le deuxième point, et avec ça on a déjà toute la théologie fondamentale, c'est-à-dire quand je suis en face de l'autre, je suis à la fois en mon propre nom, pour le dire comme ça, comme chrétien, voilà. C'est mon expérience qui est interrogée. Et en même temps, l'autre ne veut pas uniquement savoir ce que moi je crois, mais il veut savoir, voilà, ce que l'Église croit. Vous voyez, ça fait une différence importante. Le deuxième point, au fondement de la foi, l'expérience d'un sujet croyant, la tradition d'une communauté. Donc c'est là où on va introduire la notion d'une tradition. Donc il faut les deux distinctions, à la fois l'autre et moi, quiconque et moi, situation de communication, importe que l'autre soit un ennemi ou un ami, je suppose qu'on peut trouver peut-être un forum commun, la raison, Logos. Et deuxième élément, moi je suis à la fois là en mon propre nom, comme chrétien, personne ne peut dire qu'il est chrétien à la place d'un autre. Donc c'est ma propre expérience. Mais en même temps, évidemment, si je me dis chrétien, je fais partie d'une communauté. Et donc, je me réfère d'une manière ou d'une autre à une tradition. Voilà. Voilà les deux distinctions. Alors prenons le premier geste. Rendre raison de la foi chrétienne devant autrui. Alors, je pars ici, si vous voulez, d'une évidence première, celle que j'ai évoquée il y a quelques instants, avant que je me pose beaucoup de questions. Voilà. Et je suppose d'une certaine manière l'identité de la foi acquise. L'identité de la foi acquise. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis plus tout à fait un enfant, j'ai été catéchisé, ou je suis catéchumène qui a reçu le baptême, et qui fréquente, je dirais, la communauté chrétienne, qui a reçu donc un enseignement, pourrait-on dire, ordinaire, qui entend une prédication régulière, et donc qui présuppose d'une certaine manière une identité, qui fait que je me dis chrétien. Et donc, je suis en face de quelqu'un et qui me demande quoi ? De rendre compte de ce que je crois. Il me demande des raisons. Ah, vous voyez, je passe du pluriel au singulier. Il me demande des raisons. Alors, peu importe qu'on peut donner beaucoup de raisons au tout, hein, et il me demande ça. Vous voyez, il me pose une question. Pourquoi? Et ça, c'est déjà une des deux questions, des trois questions centrales de la théologie fondamentale. Pourquoi crois-tu ce que tu crois? Toute la deuxième partie du cours va porter sur le pourquoi. Alors, il y a deux autres questions. Une plus élémentaire encore. Quoi? La foi chrétienne, c'est quoi? Pourquoi y adhérer? Et la troisième, voilà, quelle est la troisième? Comment? Quoi, pourquoi, comment? Voilà, les trois parties de mon cours. Mais je dis souvent, c'est la deuxième qui vient d'abord, la pourquoi face à l'autre. Parce que je pars quand même que je suis chrétien, donc je sais un peu que je le suis, je crois de l'être. Tant bien que mal, etc. Je suis un pratiquant, plus ou moins. Et voilà, je rencontre quelqu'un qui est autrement situé que moi. Et il me donne pourquoi. Donc il me demande des raisons, ou maintenant vient le terme technique, des motifs. Des motifs de croire. Voilà, ça c'est le terme technique. Depuis le XVIIIe siècle, grosso modo. Les motifs de croire. Quels sont les motifs de croire? Donc, rendre raison de la foi chrétienne devant autrui présuppose l'identité de la foi acquise. Pourquoi? Des motifs de croire. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Ah, je vais peut-être d'abord lui dire, mais tu sais, la foi chrétienne a une prodigieuse force d'humanisation. Je vais peut-être commencer par là. Voilà. En dépit et travers les infidélités des chrétiens, des incohérences, cette foi a quand même humanisé, apporté un plus d'humanité. Je pense qu'on peut défendre ça, plus ou moins. Je suis peut-être pas la conscience tout à fait tranquille en disant ça, mais voilà. Il me semble quand même qu'on peut dire ça. Voilà. Elle rend des individus effectivement heureux. C'est une force de vie. Et non seulement les individus, mais des groupes humains. Elle rend des services quand même aux sociétés. Quand vous regardez toute la caritas inventée, voilà, les sœurs qui ont fondé des hôpitaux, etc., les écoles, avant que tout ça, ça a été légué à nos sociétés, à nos États. On a fait quand même ça. Voilà, pas mal, je peux le dire. Cette foi intègre, voyez, autre motif, des expériences limites de l'humanité. Voilà. elle nous dit quelque chose quand même du sens de la mort. Voilà. Elle tente, je dirais, de dire quelque chose de la violence. Jésus a affronté la violence. Ne frappez pas, si on vous frappe sur la joue droite, prêtez la joue gauche, voilà. Voilà, elle affronte quand même la violence cette fois, c'est-à-dire, etc. Le Dieu des chrétiens, c'est ça que je vais dire, le Dieu des chrétiens, voyez, je vais parler de lui en troisième personne. Tu vois, le Dieu des chrétiens, il n'est pas indifférent à tout cela, c'est un Dieu compatissant, comme nous est déjà dit dans l'école du tronomiste, qui a éprouvé en Jésus, et à travers les pauvres, les disciples, il éprouve finalement toutes ces situations limites de l'humanité. Voyez, je cherche des motifs de croire face aux questions de mon interlocuteur, de quiconque. J'ai indiqué quelques questions, évidemment. On fait donc référence, si vous voulez, à ce moment-là, à des arguments, donc des raisons, des motifs, des arguments, c'est un mot très important ici, on argumente. Des arguments audibles, compréhensibles. Et à ce moment-là, je dirais en faire aussi référence chaque fois à son propre expérience. Souvent, quand on argumente un peu comme ça, dans un échange, on a des petits bouts de récit. Toujours, on fait intervenir sa propre expérience, comment la foi chrétienne m'a aidé à vivre, m'a humanisé, etc., etc. Tu vois, mon expérience me dit ceci et cela. L'expérience personnelle intervient et parfois on touche même ici déjà le domaine le plus intime qui est sa propre prière. Voilà. Alors, ces motifs, et il faut les développer, je vais y revenir beaucoup, beaucoup en détail, de manière très, très argumentée dans la deuxième partie de mon cours, pourquoi, n'est-ce pas, adhérer à la foi chrétienne, ces motifs se réfèrent, pour résumer, à ce que la foi chrétienne a effectivement produit dans ma vie, et dans la vie des autres, de mes corréligionnaires. Voilà. Donc, j'argumente à partir de l'effectivité. Ça produit effectivement quelque chose, même historiquement. On peut le montrer historiquement. La foi a produit quelque chose dans l'histoire de l'humanité. Mais vous le sentez déjà dans ma manière un peu de vous présenter cette argumentation. Mais est-ce que cet argument, vous voyez, je résume tous les arguments que je viens de donner, ces arguments d'effectivité historique, la foi a produit quelque chose, est-ce que ça dit déjà quelque chose de la vérité de la foi ? Évidemment, ça a produit quelque chose, mais je dis, on pourrait dire le bouddhisme a produit quelque chose. Je dis, l'islam a produit aussi de l'humanisation. Ne parlons pas du judaïsme. Et chacun de nous, n'est-ce pas, a une ardoise lourde. Si on les compare, l'ardoise chrétienne, l'ardoise juive, l'ardoise des musulmans, des bouddhistes. Donc, de toute façon, est-ce que on peut passer d'un argument d'effectivité, donc disons d'humanisation. Encore, c'est un concept flou, j'en suis conscient, on précisera. Est-ce qu'on peut conclure à partir de cela à la question de la vérité ? Et non. Et voyez, intervient tout de suite ici un énorme problème. Est-ce vrai que Dieu, s'il existe, s'est manifesté ultimement en Jésus-Christ ? Est-ce vrai? C'est comme ça la question. Est-ce que lui, Jésus-Christ, avait-il raison dans le procès qu'on lui a fait? Ou est-ce que c'est, vous voyez, les représentants du peuple juif qui avaient raison? Ce conflit d'interprétation dure encore aujourd'hui. Voilà. Parce que les Juifs refusent Jésus comme Messie. Ils ne refusent pas Jésus comme Juif, mais comme Messie, ressuscité. Qui a raison? Voyez, à ce moment-là, la question de la vérité intervient. Et c'est encore une autre question que simplement dire « peu importe la vérité », ça produit quelque chose sur le plan humain. Voyez, souvent, nous restons, nous les chrétiens, à ce premier niveau. Nous ne nous posons pas vraiment la question, voilà, est-ce vrai? Et comment le répondre? Dieu a-t-il vraiment rendu justice à Jésus en le ressuscitant? Voilà, question quand même. Vous voyez, l'argumentaire devient ici plus difficile quand on pose cette question de la vérité. Comment savoir ce qui est vrai? Ce qui est fondé, vous voyez, un autre mot pour dire la même chose. Ce qui est fondé, qui a du poids, vous voyez. Pas uniquement du poids devant mon forum propre, mais dans un forum plus universel, en argumentant. On découvrira alors que progressivement que les débats avec l'autre ne portent pas seulement sur les motifs de croire en chrétien, mais qu'ils mettent finalement en jeu l'identité de ma propre foi et de la foi chrétienne. Est-ce que je sais vraiment ce que je crois? Au point de pouvoir répondre à la question du pourquoi. Voilà. Est-ce que je le sais? Et voyez, on vient ici au deuxième geste. Se mettre à la recherche de l'identité de sa propre foi chrétienne. Quoi? Donc ça sera la première partie du cours, plus tard, évidemment. Donc il s'agit d'être au clair avec sa propre identité chrétienne. Bien sûr, j'ai quelques notions plus ou moins précises. J'ai une vie de foi. C'est peut-être pas très unifié, très intégré, au point que je peux m'éprouver menacé dans mon identité et incapable de réagir par rapport aux questions qui concernent précisément le fondement de la foi. Souvent, je dirais, vous voyez, c'est le signe d'un manque, au fond, de liberté. C'est déjà un peu un jugement négatif de ma part. Je veux éviter ça. Mais je dirais, un signe de la fragilité de ma propre foi, que je ne laisse pas advenir les questions portant sur l'identité de la foi. Mais il y a encore, je dirais, un lien plus profond, plus intime, entre la réflexion sur les motifs de croire, donc rendre raison de la foi devant autrui, et la recherche de l'identité de la foi. Il y a tant de résistance, tant de difficultés à rendre raison de la foi, peut-être, c'est un peu une hypothèse que je propose ici sur ce lien, l'autre et moi, pas uniquement l'autre, avons-nous une idée encore trop étriquée, trop étroite de la foi de Dieu, de la foi en Dieu? Et je dirais de Dieu lui-même et de notre identité croyante. Voilà. Et au fond, je dis, les résistances de rendre compte de notre foi et de réfléchir réellement à ce que je crois, quoi, viennent peut-être, ça serait l'hypothèse positive, que j'ai une vision encore beaucoup, je dirais, trop étriquée de cette foi. Et c'est précisément, je dirais, ce qui est étriqué et étroit qui doit tomber. Et c'est ça, je dirais, l'enjeu de la théologie fondamentale. Donc, bref, pour le dire d'une autre manière, la rencontre de l'autre, la tentative de lui indiquer des motifs de croire et la mise en jeu de ma propre identité croyante conduit donc ultimement vers une expérience de conversion. une expérience de conversion. Vous voyez, ce n'est pas une opération purement intellectuelle, mais il s'agit de la conversion de mes représentations de Dieu, d'un véritable retournement, ou comme dit la tradition, la découverte du Deus semper maior, comme on dit en latin, du Dieu toujours plus grand. Du Dieu toujours plus grand. Et donc d'une identité croyante toujours plus grande. Alors, je vous ai mis ici, en bas de la page 7, comment dire, les deux adages célèbres. Le premier venant de saint Augustin et le deuxième davantage d'Anselme de Canterbury. Donc vous savez, c'est-à-dire l'abbé de Bec et archevêque de Canterbury, qui est né en 1033 dans le Val d'Aoste. Vous voyez, ça c'est cette région du nord de l'Italie dans les Alpes. Donc on était des itinérants aussi à l'époque comme maintenant. Et donc il est mort en 1109. Voilà. Et donc c'est à lui qu'on doit le deuxième adage, intellectus querens fidem, fides querens intellectum, la foi à la recherche de l'intelligence. Ça c'est le premier geste de la théologie fondamentale. Voilà. La raison, voilà, la foi à la recherche de l'intelligence. Alors, est présupposé chez saint Augustin. Donc la foi, ce que je disais tout à l'heure, une première naïveté. Et on va dans les grands écrits, dans le traité sur la Trinité au début, mais on le voit aussi dans les confessions. C'est-à-dire, cette foi, c'est l'écriture. Et l'écriture, déjà structurée et organisée à partir du symbole, voilà, le symbole. Les apôtres, surtout, voilà. Chez Augustin. Voilà la foi, présupposée. Et au fur et à mesure qu'Augustin avance, donc, par exemple dans le De Trinitate, le livre, les volumes sur la Trinité, alors il cherche des raisons, fides querens intellectum. Vous voyez, des motifs raisonnables d'accéder à la foi à laquelle il adhère déjà. Et donc là, il y a des interlocuteurs à l'époque, évidemment, je dis les interlocuteurs, c'est les tenants du Logos, c'est les néo-platoniciens, pour faire très bref. Évidemment, Augustin ne parle pas pour lui-même, il parle avec d'autres. Il se parle, mais il parle avec d'autres. Voilà. Donc ça, c'est le premier geste. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi? Et ensuite, évidemment, la raison, je dirais, chrétienne, pourrait-on dire, devenue chrétienne chez Augustin, le logos chrétien, va traverser toute une éducation. Voilà, il y a donc le Moyen-Âge, je n'en rentre pas dans les détails. Et à un moment donné, le mouvement s'inverse. Et vous voyez, on part de la raison. Et là, on est chez saint Anselme. On parle de la raison à la recherche de l'identité de la foi. Alors là, il y a de nouveau chez saint Anselme, dans le Proslogion et dans d'autres textes, peu importe, on va en lire un, vous avez un dans votre dossier, on va le lire plus tard en détail dans la deuxième partie. Il y a évidemment aussi des interlocuteurs, il y a un interlocuteur un peu fictif, un moine. Mais plus radicalement, et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est l'insensé de la Bible. L'insensé qui dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Voilà, l'interlocuteur de saint Augustin. Et voyez, c'est l'insensé, il va insister là-dessus. C'est l'insensé qui dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc on est au 12e siècle. Voilà. Alors, la raison utilise évidemment tous ses moyens, et tout en restant autonome, saint Anselme est très sensible à ça, en restant autonome, elle va jusqu'à ses propres limites en s'affrontant à l'insensé. En discutant avec l'insensé, la raison découvre ce qu'elle est elle-même. Et quelles sont ses propres limites. Et voyez, elle va découvrir à ce moment-là Dieu, c'est-à-dire elle va découvrir que la raison ne peut pas ne pas se faire une image de Dieu. Donc délimiter Dieu. Quand on se fait une image de Dieu, on le délimite, on le définit. Mais on se trompe tout de suite sur la définition même de Dieu, entre guillemets, la définition de Dieu étant être indéfinissable, toujours plus grand, toujours plus grand. Voyez. Et se fait ici cette extraordinaire opération chez saint Anselme que la raison se définit en elle-même, avec ses limites, justement. Elle se rend compte face à Dieu, l'illimité, peu importe les termes, pour le moment on va les retrouver plus tard en détail, elle va découvrir que comme raison, elle est habitée par un infini, mais qu'elle n'arrive jamais à dépasser ses limites. Mais pour dire ses limites, il faut qu'elle les ait déjà dépassées, sinon elle ne pourrait pas dire ses limites. Donc vous voyez, ici chez saint Anselme se définit la foi et la raison en même temps. C'est remarquable. C'est remarquable. On va retrouver en détail les textes pour comprendre. Mais je vous dis déjà un peu l'essentiel. Donc vous voyez, vous avez là les deux gestes. On va faire tout de suite la pause. Vous avez le premier geste de la théologie fondamentale face à l'autrui. Je disais la situation. Alors là, dans le monastère, c'est une situation paisible. Mais elle n'est pas tout à fait paisible parce que le moine est aussi affronté à l'insensé. Et l'insensé en lui-même, peut-être. En soi-même, il y a des insensés, un insensé. Voilà. Donc il est affronté. Donc premier geste vers l'autre, les motifs, pourquoi ? La question de la vérité, pourquoi adhérer à la foi ? Et le retour, je découvre en m'affrontant à l'autre, mais peut-être j'ai encore une vision beaucoup trop petite de la foi. Étriqué, je le disais tout à l'heure, finalement la foi c'est quoi ? Donc, regardez le plan à la page 4, à la page 5. Première partie du cours de théologie fondamentale, la proposition de la foi, esquisse d'une herméneutique fondamentale, je vous préciserai les termes. Donc, la première partie, elle va répondre à la question « quoi ?» et la deuxième partie, la crédibilité de la foi, parcours d'apologétique, les motifs de croire, la question de la vérité, et ça répond à la question du pourquoi. Quoi et pourquoi, les deux parties. Bon, il est temps de faire la pause, et ensuite vient la deuxième distinction, le sujet et la tradition. Voilà, je vais introduire donc maintenant une deuxième distinction. Donc, de notre côté, du côté des chrétiens, on pourrait dire, c'est-à-dire, on va distinguer parmi les sujets. Il y a évidemment d'abord, je dirais, moi qui parle en mon propre nom, entre guillemets, entendons-le bien, moi qui crois que je suis disciple du Christ. Donc ça, c'est la notion d'expérience, l'expérience d'un sujet croyant. Mais en même temps, je le disais déjà, je ne peux me considérer comme disciple du Christ que si je suis lié à une communauté, pourrait-on dire, ou pour le moment, disons, à une tradition. On va comprendre évidemment ce terme. Donc au fondement de la foi, l'expérience d'un sujet croyant, la tradition d'une communauté. Donc il s'agit des sujets du rendre raison. Qui rend raison ? C'est à la fois le sujet collectif, l'Église rend raison de sa foi, parce que c'est elle collectivement qui est en lien avec quiconque, et en même temps c'est chacun de nous. Et il y a donc ce troisième personnage déjà évoqué, le quiconque, auquel nous allons revenir. Alors prenons donc les deux aspects. D'abord l'expérience du sujet croyant. Et donc un petit mot à propos de la notion d'expérience. Je vous propose ici une définition extrêmement simple pour le moment, qu'on va préciser plus tard. Ce que personne d'autre ne peut vivre à ma place. Voyez, voilà. Ce que personne d'autre ne peut vivre à ma place. Donc, j'ai dit, c'est une notion très proche du je, voilà, de sa simplicité. Donc, on va retrouver évidemment plus tard d'autres précisions. On peut déjà dire que la notion d'expérience, évidemment, elle renvoie d'abord pour beaucoup d'entre nous, au monde scientifique, laboratoire comme espace. Donc, le laboratoire scientifique avec un protocole, précis, avec des réfutations de théories, d'hypothèses et de vérifications grâce à des expériences au pluriel qu'on fait. Ça, c'est un versant de la notion. Et il y a l'autre versant de la notion que j'ai déjà évoqué tout à l'heure quand j'ai parlé de la pondération. On dit de quelqu'un qui est expérimenté, n'est-ce pas, humainement, c'est-à-dire qu'il s'est pesé, il y a du poids dans sa vie, pourrait-on dire. Voilà. En allemand, je dis ça en passant, on a un mot très beau, Erfahrung, qui est la traduction de français, expérience, on entend derrière fahren, voyager. Donc c'est au fond, l'idée que c'est le voyage qui fait de nous des gens expérimentés. Nous sommes tous des gens qui ont beaucoup voyagé. Quand je vois les têtes des uns et des unes et des autres, c'est clair. Donc, ça, c'est l'autre versant de la notion expérience. Expérience humaine, l'expérience humaine. Ce que personne d'autre ne peut vivre à ma place. Alors, quelle est cette expérience? Je vous propose donc ici une formulation extrêmement simple. Voyez le deuxième tiret, quelle est cette expérience? Le sujet croyant s'éprouve fondé sur un autre. Et j'ai mis le autre avec un grand A. Voilà, c'est une manière la plus simple, le plus élémentaire de dire l'expérience, du croyant. Celui qu'il appelle Dieu. Alors, vous avez cette magnifique définition de Martin Buber qui va dans ce même sens, dans son ouvrage très célèbre « Deux types de foi, foi juive, foi chrétienne ». Martin Buber, donc un philosophe juif, personnaliste, on dit parfois, première moitié du XXe siècle, la foi c'est s'assurer et se fonder en Dieu. La foi, c'est s'assurer et se fonder en Dieu. Je vous ai mis cela. Et vous trouvez derrière, évidemment, les racines, hébraïques, Emet, et qui va donner, donc, Aman. Emet, Aman. Emet, du côté de Dieu, ce qui est solide. Ce qui est solide. Donc on traduit parfois la fidélité, la vérité, vous voyez, c'est déjà une abstraction, on n'entend plus la solidité, avec la métaphore à laquelle je reviendrai dans quelques instants, celle du roc. Le sujet fondé sur un autre, sur le roc, voilà. Emet, et ça donne du côté de l'homme, aman, c'est la même racine, qu'il soit ainsi. Voyez, qu'il soit ainsi. Amen, je vous le dis, souvent Jésus commence ses paroles de cette manière-là. Ce qu'on traduit évidemment comme ça, on n'entend plus derrière, évidemment, qu'il se fonde en parlant sur un autre. Voilà. Donc la foi, c'est s'assurer et se fonder en Dieu. Et à partir de cela, on peut aller plus loin, c'est-à-dire quelle est la structure finalement fondamentale de cette expérience? dans laquelle je peux me reconnaître. Alors, il y a deux problèmes qu'il faut tout de suite ici aborder. C'est le problème du langage. Parce qu'il n'y a pas d'expérience sans langage. Nous sommes des êtres de parole. Voilà. Et c'est le langage qui structure notre expérience. Et donc, le problème du langage, c'est, on pourrait le dire, triple, ici, c'est le tiret suivant. Il y a d'abord, c'est pour ça que j'ai utilisé pour le moment le mot « autre » avec un grand « a », pour le moment. Donc, le sujet croyant s'éprouve, fondé, s'éprouve donc, fait l'expérience de, s'éprouve fondé sur un autre, celui qu'il appelle Dieu. Et j'ai mis « Dieu » entre guillemets. Donc, Dieu est un mot, d'abord, et qui existe dans toutes les langues humaines. On va bien sûr revenir à ça. C'est un mot. Et je dirais un mot, comment dire, qui a une fonction. Qui a une fonction précise. Et quelle est la fonction de ce mot dans la langue? Simplement de signaler, de signifier ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire, c'est l'indicateur de la finitude humaine, de la contingence humaine, dans toutes les langues. Que ce soit utilisé au pluriel, au singulier, peu importe, Gott, God, Theos, etc., Elohim. Voilà. D'abord, c'est ça. C'est l'indicateur dans nos langues humaines d'une finitude fondamentale. Et nous allons voir, plus tard on appellera ça, à un moment donné dans la tradition catholique, la connaissance naturelle de Dieu. Laissons tomber ça surtout pour le moment. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas d'humanité sans indicateur de finitude. Et donc le mot Dieu a cette fonction-là. Si l'homme commence à se prendre lui-même pour Dieu, vous voyez où on va. Les totalitarismes du XXe siècle sont la manifestation de cela. Et la langue humaine, les langues humaines sont magnifiques de ce point de vue-là, depuis le début, et en disant ça, je parle déjà de tradition, nous allons le voir après de manière plus explicite, depuis le début, dans les langues, il y a cet indicateur de notre finitude. Ça, c'est la fonction. Et à l'autre bout, alors, vous avez le nom de Dieu. Ah là, ça c'est tout à fait autre chose. À la fois, ça suppose le mot Dieu, ça suppose quelque part l'expérience de finitude, mais quand vous donnez un nom à Dieu, ou quand vous dites le nom de Dieu s'est révélé, Exode 3, voyez ce versant, alors là, vous êtes dans une relation. Parce que le nom, c'est évidemment l'indicateur par excellence d'une relation. Je reçois un nom et je donne à quelqu'un un nom. C'est l'expérience la plus élémentaire de l'être humain. Le bébé qui est né, le premier acte, outre la sortie, c'est la nomination. Et donc, il devient un tu. Un tu. Et donc, ça, c'est fondamental. Je dirais, c'est la différence. Entre le mot Dieu et le nom de Dieu. Donc là, on entre dans une relation. Et au fond, on pourrait dire que l'ensemble de nos écritures retrace, nous allons le montrer et le voir en détail, retrace l'itinéraire du mot au nom. Comment ? C'est ça mon expérience. Que Dieu n'est pas uniquement un tiers dont je parle, mais je m'éprouve fondé sur un autre, celui que j'appelle, donc avec son nom, Dieu. Et donc entre le mot Dieu et le nom de Dieu, ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toutes les métaphores. L'écriture comme un rassemblement de métaphores. Les métaphores. Métaphore veut dire transposition. Vous voyez les paraboles? il en est du royaume des cieux comme, et ensuite on vous raconte une histoire. C'est de l'ordre de la métaphore, du récit. La métaphore introduit dans un récit, dans un itinéraire. La zone métaphorique. Alors, regardez le premier schéma du cours. Donc, on va aller vers la fin. Et donc, les annexes et la page 59. Donc, ce schéma-là va nous accompagner un petit moment maintenant. Donc, vous voyez, vous avez le discours de foi. On va revenir à ça. Le discours de foi. Donc là, on est au niveau de l'expérience, mais une expérience qui n'est d'expérience que si je peux en parler. Sinon, il s'agit... Et face à autrui, à quiconque, qu'est-ce que je vais lui dire? Voilà. Donc, vous voyez, là, vous avez le discours de foi, vous avez le mot Dieu, qui est toujours quelque part présupposé, ou ses équivalents, peu importe. Et vous avez de l'autre côté le nom de Dieu, et entre les deux, la zone des métaphores. Vous voyez, les multiples métaphores quand on parle de Dieu. Et c'est ça qu'on va un peu regarder maintenant avec la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 6, et qui se réfère à Exode 17, 1, 17. Il y a là une métaphore centrale. C'est la métaphore que j'ai déjà évoquée, celle du rocher. Vous allez apprendre ça à travers les études de théologie, de vous rendre sensible au caractère infiniment concret de la langue biblique. C'est absolument magnifique. C'est pour ça qu'il faut apprendre le grec, il faut apprendre l'hébreu. Voilà, pour entrer dans ce monde des métaphores qui nous donne à parler aujourd'hui, qui nous permet de parler. Vous voyez, j'utilise un terme terriblement abstrait, fondement. Bon, fondement, on peut encore entendre, je dirais. On fonde quelque chose dans une architecture, une maison, une cathédrale, un fondement. On peut se demander, ce fondement en bas, ou dans une cathédrale, c'est peut-être la clé de voûte, la dernière pierre, vous voyez, qui tient tout ensemble. On va déjà, n'est-ce pas, que le mot fondement, il y a quelque chose de métaphorique, déjà. C'est un terme philosophique, fundamentum en latin, ça sonne mieux encore, voilà. Mais la Bible ne parle pas comme ça, c'est le rocher, le roc. Alors, 2 Samuel 23, 3, le rocher d'Israël, oh, c'est magnifique. 2 Samuel 23, 3, ou 2 Samuel 22, 2, c'est David qui parle, j'ai le Seigneur pour roc, c'est-à-dire au moment où il est. Suivi par Saül. J'ai le Seigneur pour roc, pour forteresse et pour libérateur. Dieu, le rocher où je me réfugie. Vous voyez, c'est en même temps le rocher contre lequel Moïse frappe, et c'est une source qui en sort. Voilà. Donc le rocher. Matthieu 7, 24. Ainsi, quiconque. Ah, il y a de nouveau le quiconque là. Quiconque écoute ces paroles et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui bâtit sa maison sur le roc et non pas sur le sable. Voilà. Alors, ça c'est là, le jeu des métaphores. Vous comprenez ça maintenant, je crois. On va y revenir beaucoup plus parce que les métaphores, c'est un langage en même temps technique. Magnifique. Voilà. Donc, le mot Dieu, le nom de Dieu, et entre les deux, on n'a que les métaphores. Et les métaphores sont très proches de notre expérience, parce qu'on sait ce que c'est bâtir une maison sur le roc, voilà, ou sur le sable, voilà. Ou quand on est perdu dans la mer, tout d'un coup, je dirais, de trouver une pierre, voilà. On peut s'accrocher, voilà. Alors, faisons un pas de plus. Donc, 1 Corinthiens 10, 1, 6. Donc là, c'est la situation d'Israël dans le désert, comme dans l'Exode. Voilà, Moïse dans la nuée, voilà. Et tous furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous mangèrent la même nourriture spirituelle et tous purent le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Alors, traduit littéralement, un rocher de souffle qui les suivait. pas ça, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, un rocher de souffle qui les suivait. Alors, qu'est-ce que c'est ça, voyez? Donc, vous voyez, on a ici donc ce s'éprouver, soi-même fondé dans un autre qu'on appelle Dieu. On voit bien, n'est-ce pas, que c'est un fondement, c'est solide, comme un rocher. Mais attention, c'est un rocher de souffle. Et en plus qui marche, en plus qui marche. Donc, vous voyez, l'art métaphorique de la Bible, la poésie, je dirais, biblique, c'est absolument extraordinaire. Voilà. Alors, derrière, vous avez évidemment l'autre texte, Exode, n'est-ce pas? On va regarder d'abord ça. 17, n'est-ce pas? Et c'est l'épreuve. Parce que vous allez voir, dans la métaphore, la zone métaphorique, prenons toujours l'exemple du rocher de souffle qui marche, donc qui est devant ou qui est derrière, il s'agit finalement d'une épreuve, c'est-à-dire de quel ordre est cette relation finalement, de fondement, si c'est à la fois solide et en même temps extrêmement fluide. J'entre dans une épreuve, en plus ce rocher de souffle marche. Donc c'est le Christ, nous dit saint Paul, il marche. Ce rocher de souffle. Donc c'est l'épreuve. Quelle est cette épreuve? Et ça c'est l'épreuve évidemment de Massa et Meriba, Exode 17, qui est derrière ici. Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sin, poursuivant ses étapes sur ordre du Seigneur, ils campèrent à Rephidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella Moïse. Voilà, l'épreuve commence. La querelle. « Donnez-nous de l'eau à boire, dirent-ils. » Moïse leur dit, « Pourquoi me querellez-vous? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve? » Là-bas, le peuple eut soif. Le peuple murmura contre Moïse. « Pourquoi donc, dit-il, nous as-tu fait monter d'Égypte pour me laisser mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux? » Moïse cria au Seigneur, « Que dois-je faire pour ce peuple ?» Et le procès commence déjà. « Encore un peu, ils vont me lapider. » Le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi quelques anciens d'Israël. Le bâton dont tu as frappé le fleuve, vous rappelez de cette histoire, prends-le en main, tu as frappé le fleuve, prends-le en main et va. Je vais me tenir devant toi, là sur le rocher, en Horeb. Voyez, l'écriture, elle superpose, n'est-ce pas, comme on peut faire aujourd'hui avec des diapos, n'est-ce pas, parfois, c'est-à-dire un fondu enchaîné. Ça, c'est l'écriture, n'est-ce pas, elle superpose les métaphores, voilà. Je vais me tenir devant toi, là sur le rocher, en Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Meriba, épreuve et querelle, à cause de la querelle des fils d'Israël, parce qu'ils mirent le Seigneur à l'épreuve en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Oui ou non. Voilà l'épreuve. C'est-à-dire l'épreuve de la traversée de l'existence humaine, de la traversée du désert, de la traversée que vit le croyant et qui est son expérience. Je m'éprouve fondé en Dieu, dans le tout autre, le rocher, est traversé nécessairement par une épreuve. Je parlais tout à l'heure du Deus semper maior, du Dieu toujours plus grand, qui est une formule relativement abstraite, mais ce qui veut dire évidemment ce fondement. Il est à la fois solide et en même temps d'une extrême fragilité, d'une fluidité. Et donc émerge la question centrale, et qui est celle de l'épreuve, Dieu est-il vraiment au milieu de nous? Oui ou non? Vous voyez, ce n'est pas la question existe-t-il, qui est une question abstraite. Est-il vraiment au milieu de nous? Donc vous voyez, je viens de vous lire... deux textes où on saisit sur le vif le problème du langage. Le problème du langage intimement lié au problème de l'expérience personnelle. Dire son expérience. Et donc derrière, il y a un type de relation. Je m'éprouve fondé. Voyez, la foi, c'est pas quelque chose qui va comme ça de soi. Mais il n'y a pas de foi sans traverser. Alors là, il faut prendre ça littéralement, comme traverser, comme épreuve. Voilà. Avec cette question, le Seigneur est-il au milieu de nous? Alors, je l'ai un peu formalisé. Voyez les trois temps au fond de cette traversée. Voyez, c'est à la fin du point A. D'abord, l'altérité de Dieu. Voyez, la Bible distingue, et ça c'est l'épreuve, on va y revenir, entre l'idolâtrie et le respect de Dieu dans son altérité. L'idolâtrie, voyez, c'est de prendre la métaphore au premier plan. Dieu est mon fondement. Je répète ça. Voilà. Je chante ça. Au premier plan. Mais ça devient rapidement une idolâtrie, c'est-à-dire je me fais une image de Dieu, je mets la main dessus et je ne respecte pas l'altérité de Dieu. Le Dieu toujours plus autre. On a eu ça dans les textes ces jours-ci, chez Isaïe et dans le prophète Ézéchiel, n'est-ce pas ? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Voilà. Donc l'altérité. Et donc, l'épreuve ici, c'est présence et absence. Vous voyez, le rocher, c'est à la fois absence, parce que c'est dur, n'est-ce pas? On se casse la tête contre le rocher. C'est aussi l'image de la stérilité, le rocher. Sur un rocher, rien ne peut pousser. Et en même temps, c'est le lieu le plus stérile d'où sort subitement l'eau. Vous voyez, cette alternance, présence-absence, consolation, désolation, disent les spirituels, qui introduit le temps dans notre expérience de Dieu. Le temps, et nous signale que nous ne pouvons pas mettre la main sur lui. L'idolâtrie. Tu ne te fais pas une image de Dieu. Premier commandement. Voilà le premier temps. Et donc l'épreuve, c'est le temps du désert, de la traversée, où d'une certaine manière la nourriture m'est retirée, et où je ne peux plus confondre le don de la vie, de la nourriture, c'est les choses les plus élémentaires, et le donateur. Je ne peux plus réduire ce que Dieu donne à ce qu'il est, le donateur de tout bien, et ça c'est liberté. L'épreuve, le désert, et ça produit du côté de l'homme, ce que j'ai appelé tout à l'heure la liberté de la foi, une alternative et une décision. Mettre la main sur ce fondement dans mon existence, idolâtrer la création ou, voilà, le rapport à l'altérité. Le sujet croyant s'éprouve fondé sur un autre, celui qui appelle Dieu. Voilà, si vous voulez, je dirais, une manière un peu concrète, je l'espère, de vous présenter, et on va y revenir, le premier versant, au fond, quand l'autre me questionne, voilà, pourquoi crois-tu? Qu'est-ce que tu crois? La foi chrétienne, c'est quoi? Pourquoi y adhérer? Voilà, finalement, une réponse va quand même un peu dans ce sens-là, de ce que je viens de dire. Je fais référence à mon expérience en essayant d'expliciter à mon interlocuteur, au fond, je veux dire, qu'est-ce que je dis quand je parle? Donc, je lui utilise un mot, je m'adresse à celui que nous appelons Dieu et j'utilise le langage métaphorique. Voilà, métaphorique. Et on ne peut pas faire autrement. Alors maintenant, l'autre versant, si vous voulez, la tradition d'une communauté. D'abord, je dirais, la simple nécessité d'une tradition. Il n'y a pas d'être humain sans tradition. Il n'y a pas d'existence humaine, parce qu'il n'y a pas d'existence humaine sans culture. Je nais dans une langue, sinon je ne suis pas un être humain. Et la langue me précède, toujours, la langue maternelle, comme on dit aussi en français. elle me précède. Et donc j'apprends à parler dans une langue. Et alors je viens de le pratiquer, si vous voulez, le mot Dieu fait partie d'une langue, évidemment. Sinon, il n'y a pas d'expérience humaine si on n'a pas une langue. Donc le mot Dieu déjà. Évidemment, les métaphores sont toujours plus ou moins universelles. La métaphore du rocher est relativement universelle. Parce que bon, dès qu'on est dans les éléments, donc le rocher, l'eau, le souffle, l'air, la lumière, on est, j'ai dit, dans des métaphores relativement universelles. Mais après, on peut particulariser. Chaque langue a son monde de métaphores. Et la langue biblique a son monde de métaphores. Mais il y a maintenant, si vous voulez, une raison beaucoup plus fondamentale de parler de la tradition en christianisme. Et c'est cette formule absolument fondamentale de l'épître aux Romains. C'est Paul qui l'a forgé. La foi vient de l'écoute. La foi vient de l'écoute. Romains 1, 5, Romains 16, 26, comme on dit aussi en latin, fides ex auditu. Vous voyez, il n'y a pas de foi sans ouvrir les portugaises, comme on dit un peu vulgairement. Vous voyez, les portugaises, c'est-à-dire les oreilles. Voilà. Il n'y a pas de foi. Et on voit d'ailleurs, j'ai dit, une magnifique représentation, je crois que c'est la pierre qui vire, Saint-Benoît, voilà, comme ça. Donc ça, c'est le début de la foi. Donc vous voyez, ma première formule, je me prouve fondée sur un autre, est relativement abstraite. Évidemment, c'est parfaitement vrai. Mais comment puis-je advenir à m'éprouver fondée sur un autre si cet autre ne m'a pas révélé son nom? Voilà. C'est pas uniquement le mot Dieu. Est-ce qu'il existe ou non? Bon, je veux dire, on va revenir à cette question dans la deuxième partie du cours. Mais le point essentiel, c'est quand même l'écoute. Voilà. Un être qui écoute. Alors ça, c'est la raison fondamentale pourquoi il y a une tradition. La foi vient de l'écoute. La foi est un acte à la fois vital. Regardez la prochaine phrase sur mon polycopier. Un acte à la fois vital. Expérience, je viens d'en parler. Et impossible à inventer par soi-même. Acte que personne ne peut poser à la place d'un autre. Bien sûr, personne ne peut croire à la place d'un autre. Acte cependant qui doit être rendu possible, engendré par autrui. Engendré par autrui. Par une tradition. Alors là, c'est mon troisième texte. Donc, première lettre de Pierre, ou mon quatrième lecture d'un Corinthiens 10 avec Exode 17. Et maintenant, aujourd'hui, le dernier texte, je les ai mis tous en gras pour cela. Donc, c'est un peu la matrice du cours. C'est donc Romains, chapitre 10, versets 8 à 21. Donc, je vais un peu vous lire l'essentiel. Que dit-elle donc? Alors, elle, c'est la justice, c'est-à-dire il y a une citation ici magnifique de Deutéronome. Vous allez relire le texte, s'il vous plaît, chez vous. Regardez, vraiment, il est tout à fait décisif. Que dit-elle donc? Tout près de toi est la parole dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est la parole de la foi que nous proclamons. C'est Paul qui parle ici. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. Car l'Écriture dit, quiconque a, on va retrouver notre ami, le quiconque, quiconque croit en lui ne sera pas confondu. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et grecs. Tous ont le même Seigneur, riche envers tous, ceux qui l'invoquent. En effet, de nouveau citation, quiconque, on a de nouveau notre ami, quiconque invoque le nom du Seigneur, pas le mot Dieu, le nom du Seigneur, sera sauvé. Or, comment l'invoquerait-il sans avoir cru en lui? Et comment croirait-il en lui sans l'avoir entendu? Et comment l'entendrait-il si personne ne le proclame? Et comment le proclamer sans être envoyé? Aussi est-il écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Isaïe. Mais tous n'ont pas obéi. Écoutez. Il faut traduire obéi par écouter. C'est la même chose, n'est-ce pas? La foi vient de l'écoute. L'obéissance, on va revenir à ces termes. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile. Isaïe dit en effet, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de la prédication. Et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ, etc. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la lecture, mais je vous invite de revenir au schéma, au premier, et je vais un peu vous commenter ce qu'on vient de lire. Donc, ce magnifique, magnifique texte. Donc, vous le retrouvez à la page, tout de suite, 59. Voilà, à 59. Donc, vous voyez, dans ce schéma-là, qui va nous aider maintenant à décoder un peu le texte, vous avez d'abord une distinction fondamentale entre la bouche et le cœur. La bouche et le cœur. Donc, c'est très physique, hein, c'est la chair. Mais en même temps, évidemment, je dirais, il y a une signification symbolique. Donc la bouche, c'est-à-dire, c'est la langue, ce qui sort. Donc on est ici au niveau du discours. Hein, voilà. L'expérience d'un sujet croyant, la tradition d'une communauté. Le niveau du discours, le langage, la manifestation. Et le cœur, c'est évidemment l'intériorité. Pensez à Jérémie, n'est-ce pas, ou Ézéchiel, hein, le cœur nouveau. Donc, le cœur, c'est le siège de l'acte de foi. Et le cœur est ce qui est insubstituable. Donc l'acte de foi sort du cœur. Si de ta bouche tu confesses, et si tu crois dans ton cœur, donc vous voyez, tu seras sauvé, entendu déjà derrière le terme salut, l'unité entre la bouche et le cœur, ça c'est le salut déjà. C'est extraordinaire. C'est jamais garanti, mes amis. C'est jamais garanti, n'est-ce pas? Est-ce que je sais bien quand je dis le Notre Père que c'est moi qui le dis? Voilà. C'est jamais garanti. Donc c'est l'unité. C'est ça la promesse quand même. C'est ça la promesse. Donc la bouche et le cœur. Oui, et la bouche, si vous voulez, je dis, c'est ce qui sort de la bouche, c'est ça qui est l'écriture, écrite oralement aussi, c'est ce qui est de l'ordre de la tradition. Et le cœur, c'est l'intériorité. Alors, regardez maintenant un tout petit peu, on va suivre un peu. Vous avez donc, au niveau du discours, vous avez ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire Dieu, la zone métaphorique et le nom. Donc, ces trois éléments linguistiques qui structurent toute expérience de foi. Et la tradition est omniprésente. Voilà. Alors, ensuite, vous voyez ce que Paul nous montre, mais il le montre dans un mouvement inverse. Mais je vous ai remis le mouvement ici. Vous voyez, le but, c'est effectivement confesser le nom, ou les trois noms, pourrait-on dire, du Père, du Fils et de l'Esprit, on va y revenir, confesser les noms et invoquer le nom. Invoquer, c'est de s'adresser à lui. Invoquer, prier, ce sont les actes de prière. Les deux éléments de l'expression chrétienne, la confession de foi et l'invocation dans la prière. Mais évidemment, je veux dire, c'est des actes linguistiques et communautaires et individuels, mais dont le siège est invisible. C'est le cœur. C'est le cœur. Et voyez, le croire naît dans le cœur. C'est là où il y a la jonction entre la bouche et le cœur, entre l'expérience et la tradition. Et vous avez vu, il y a une flèche plus fondamentale qui vient des profondeurs infinies du cœur, parce que saint Paul est aussi celui qui va nous dire, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur sinon dans l'esprit. Donc, à la fois, je suis le sujet, mon cœur est le sujet de mon acte de foi, de mon invocation et de ma confession de foi, mais le sujet ultime, c'est un acte impossible, c'est l'Esprit-Saint qui ouvre mon cœur. Alors, vous voyez, pour croire dans son cœur, il faut ouvrir ses oreilles, entendre. Et j'ai mis au-dessous d'entendre, lire les Écritures et entendre. Et après, il y a une petite rupture. Nous allons voir après pourquoi, les flèches brisées. Mais pour entendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Prédication, proclamation, mais aussi une proclamation écrite, l'écriture. On va y revenir plus tard, pour le moment je l'ai cité, l'écriture. Mais pour qu'il y ait prédication et proclamation, il faut l'envoi. Et donc, on revient à des figures fondamentales, initiales. Donc, la figure de Moïse et les prophètes, la figure de Jésus, la figure des apôtres. Vous voyez, des gens qui envoient, mais, qui sont envoyés eux-mêmes. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est central pour l'identité de Jésus. Lui-même envoyé. Envoyé par Dieu lui-même. Donc, on voit ici, si vous voulez, je dirais une sorte de d'imbrication fondamentale entre à la fois l'expérience vécue par des figures et nous en sommes les figures dans une grande lignée parce que personne ne peut invoquer le nom de Dieu est confessé le nom de Dieu à ma place. Donc, une multitude infinie, comme dit l'Épître aux Hébreux, de témoins. Une multitude infinie. Infinie. Voilà. Et en même temps, vous voyez, ces figures sont intimement reliées. Et ça, c'est la thèse centrale. Personne ne peut invoquer Dieu et confesser le nom de Dieu, donc accéder à la foi, sans l'écoute, et donc sont des gens qui ont déjà prêché, et qui ont été déjà envoyés, etc. Voilà. Donc, il y a un lien intime entre ces deux niveaux, vous comprenez maintenant le titre, au fondement de la foi, l'expérience d'un sujet croyant et la tradition d'une communauté. Ce qu'on appelle aussi des tradentes, des gens qui transmettent. Alors, on va rapidement regarder la suite. Relation, donc, j'insiste ici là-dessus, le tiret suivant. Une relation de conditionnement mutuel entre la tradition chrétienne et l'expérience du sujet croyant. La tradition juive et chrétienne, ce qui la caractérise, et j'irais même jusqu'à dire par rapport à toutes les autres traditions. Il y a une multiplicité de traditions islamiques, etc., etc. La tradition juive et chrétienne réserve des places vides pour l'expérience du sujet croyant. Donc, elle est faite de telle manière depuis le début, depuis les prophètes qui sont les premiers, que cette tradition textuelle, vous voyez, et sociale, c'est-à-dire dans sa constitution vivante, on va y revenir, qu'elle réserve des places vides pour chacun de nous, jusqu'à la fin des temps. Des places vides. Pour l'expérience du sujet croyant, et inversement, cette tradition n'existerait pas si cette place n'était pas prise. Imaginons un jour qu'il n'y aurait plus de chrétiens. c'est-à-dire des gens qui ne font plus l'expérience, qui prenaient plus cette place, alors la tradition juive deviendrait, comme certaines traditions juives et chrétiennes, la tradition chrétienne, disons, deviendrait comme beaucoup d'autres traditions qui sont mortes, c'est-à-dire on aurait des témoignages, entre guillemets, des monuments, quelques monuments, on aurait des textes dans des bibliothèques, mais ce ne serait plus la tradition. Ce ne serait plus une tradition. L'expérience du sujet croyant ne peut vraiment advenir à elle-même sans un rapport au langage chrétien et donc à la tradition. Et la tradition chrétienne ne peut survivre, vivre que s'il y a des gens qui prennent ses places. Donc vous voyez comment les deux sont intimement liés. Quelle est la conception de la théologie qui se dégage de ces deux distinctions maintenant fondamentales? Je résume. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qu'on a, j'espère, appris aujourd'hui lors de cette première séance. D'abord, premièrement, la relation constitutive des chrétiens aux autres, à quiconque. Il n'y a pas de chrétien. Pour les juifs, c'est différent. Pour nous, chrétiens, il n'y a pas de chrétien sans relation constitutive à quiconque. C'est à ce quiconque que Jésus de Nazareth s'est d'abord intéressé. D'abord. La femme hémorroïse, Zachée, beaucoup, beaucoup d'autres. Oui. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La relation constitutive des chrétiens aux autres devant l'horizon de ce qui leur est commun. Au moins, je dirais, en espérance, c'est-à-dire le logos, la raison. Alors, la raison, attention, c'est pas quelque chose de très d'abstrait. Hein. Il y a des éléments abstraits dans la raison, mais c'est quelque chose de très charnel. Nous allons le voir. La capacité de peser ce qui a du poids dans la vie. Voilà. Alors, la raison humaine. Ça, c'est la première chose que nous avons appris. Et c'est dans ce jeu, vous voyez, que se déploient les deux questions. Il n'y a que ces deux d'abord. La foi chrétienne, c'est quoi? Et pourquoi y adhérer? Et la deuxième chose, la relation constitutive entre la tradition chrétienne et l'expérience inaliénable des sujets. Il y a un conditionnement mutuel entre les deux. Pour répondre à la question « La foi chrétienne, c'est quoi ?» Je dois toujours répondre en mon propre nom, mais si je réponds en mon propre nom, rapidement je suis ramené à la réponse collective qui est celle de la tradition chrétienne. Et si je réponds d'abord en fonction de la tradition chrétienne, je réponds à l'autre en disant « La tradition dit ceci et cela, la foi chrétienne c'est ça, selon la tradition chrétienne, et c'est pour ça qu'on peut y adhérer », je suis rapidement ramené à mon propre expérience, c'est-à-dire de fait de parler en jeu. Voilà, j'espère que vous retenez bien cela. Alors un dernier point décisif, c'est, regardez de nouveau le schéma, la page 59. Voyez donc, cette ligne brisée, elle vous dit quelque chose, c'est un peu un symbole, un signe, ça veut dire que le rapport, le passage de la prédication, ou comme je dis plus haut, et c'est déjà le concept paulinien de tradition auquel on va bientôt revenir, la tradition livrée. Je vous ai livré, dit saint Paul, 1 Corinthiens 15, ce que j'ai reçu moi-même. Donc vous voyez là, c'est une autre manière de dire, si je vous livre dans ma prédication la foi chrétienne, c'est que je l'ai reçu moi-même, je vous ai été envoyé. Donc, je vous ai livré, donc, la prédication, le passage de la tradition livrée, ou de la prédication, de la proclamation, ou de l'écriture, à la tradition reçue, ou à l'écoute, ça ne va pas de soi. C'est jamais garanti. C'est jamais garanti. Et donc, vous voyez, il y a deux choses ici. Ce qui nous déculpabilise aussi un tout petit peu. La responsabilité, la nôtre, comme prédicateur, disons ça, aux catéchètes, et comme ceux qui livrent la foi à d'autres, c'est de veiller à rendre possible la réception. La rendre possible, pas la rendre possible au IVe siècle ou au XVIe siècle, mais au XXIe siècle. Et donc, vous voyez, il y a ici une interprétation qui intervient ici. Rendre possible l'expérience. Mais si l'autre ne reprend pas le relais, c'est sa liberté. Donc, vous voyez, je suis responsable d'une transmission correcte de la foi chrétienne, mais je ne suis pas responsable de la réception. Ah, ça, c'est très important. Il y a un sans garantie. Et ce sans garantie, il est lié à quoi? C'est le risque de la tradition chrétienne. La tradition chrétienne est la seule qui va jusqu'au bout de ce risque. C'est-à-dire, elle va jusqu'au bout de l'idée que personne ne peut croire à la place d'un autre. Et que la tradition ne peut que rendre possible cette foi, crédible cette foi. Et ça, c'est le risque, parce que si le relais n'est plus pris, on voit bien maintenant à quel point la tradition est menacée en Europe. Soyons clairs là-dessus, on va y revenir. Est-ce que les gens prennent le relais? Mais nous ne pouvons pas prendre le relais à la place des autres, la liberté religieuse. Mais nous sommes responsables de transmettre la foi de telle manière que d'autres puissent prendre le relais. Donc ça, c'est intrinsèquement lié à la tradition chrétienne. Alors, je vous lis le troisième point et nous allons nous arrêter. Vous avez donc là une sorte de résumé. Voyez, faire de la théologie une définition. Faire de la théologie, donc à la page 8. Faire de la théologie, c'est une démarche ou une expérience spécifique, j'y reviendrai la prochaine fois, qui est d'un autre ordre que l'expérience de la foi. Une chose, c'est de prier, d'invoquer Dieu dans la liturgie. Et une autre chose, c'est de faire de la théologie, c'est-à-dire de transmettre correctement la foi. La théologie ne peut pas être identifiée à la foi ni à la prière, mais elle présuppose nécessairement l'expérience de Dieu du sujet, du théologien, et y renvoie continuellement. C'est-à-dire une théologie qui ne renvoierait plus à l'expérience du théologien que je suis ou à la vôtre, ça serait une science des religions, une science du christianisme qu'on fait à la cinquième section des hautes études légitimement, qu'on fait dans des facultés de sociologie, de l'histoire, on peut faire ça. C'est nécessaire, c'est légitime, mais ce n'est pas la théologie. La théologie intervient au moment où il y a le renvoi à l'expérience, mais la théologie doit aussi savoir qu'elle n'est pas cette expérience elle-même. Faire de la théologie, maintenant positivement, c'est participer activement au mouvement même de la tradition chrétienne, en la recevant et en la réinterprétant, ce que je disais à l'instant, pour aujourd'hui, parce qu'on est dans l'histoire, et maintenant vient le critère pour permettre à l'homme d'aujourd'hui de faire une expérience authentique de Dieu. La première chose négative, c'est la condition nécessaire, et le point B, c'est la condition suffisante. On va y revenir la prochaine fois. C, l'autre, en son identité historique, culturelle, religieuse, invite le croyant à s'interroger sur l'identité de sa foi. Quoi? Et sur ce qui fonde cette foi. Pourquoi? Renvoyant le chrétien à son expérience absolument singulière et à sa tradition. Vous voyez, c'est le résumé de ce que j'ai dit pendant ces deux heures. L'appelant à comprendre ce qu'il a reçu pour l'interpréter aujourd'hui et le livrer à autrui, ce qui est la mission de toute la communauté apostolique. Donc le sujet de la théologie, c'est à la fois l'individu, chacun de nous avec son expérience. Martin Luther disait ça, chaque chrétien est théologien, mais évidemment, c'est la communauté comme telle qui est théologienne dans la mesure où elle est responsable de la transmission de la tradition. Voilà, ça c'est déjà l'essentiel. Si vous avez compris ça aujourd'hui, je vous invite quand même de revenir le mardi prochain. Oui, mais c'est d'une certaine manière déjà la totalité de la théologie fondamentale que vous avez avec ça, ces enjeux. Voilà, bonne semaine et à mardi prochain.